Parole d'auteur. Une émission de Monique Fauché.
La vie n'est pas un long fleuve tranquille, dit-on, et la Garonne non plus. Elle qui reste un fleuve tumultueux jusqu'à Longueau. Et pourtant la voici, fil conducteur d'un éveil, d'une réconciliation, d'un apaisement. La rencontre de deux êtres que des années séparent, beaucoup d'années, deux êtres abîmés, vaincus, sans espérance, se retrouvent dans ce beau roman intitulé « La jeune fille et le fleuve » édité par la maison d'édition Passiflore, et j'ai le plaisir de recevoir son auteur, Bernard Housseau. Bernard Housseau, bonjour.
Bonjour.
Alors j'ai omis de dire que votre roman a reçu le prix Chronos. Qu'est-ce que c'est le prix Chronos? Pouvez-vous dire ça à nos auditeurs?
Alors le prix Chronos, c'est un prix qui existe depuis plus de 25 ans, qui est...
C'est un prix national.
C'est un prix national qui est décerné en fait par tous les lecteurs qui veulent participer. Donc en fait, il y a une association qui a créé ce prix donc il y a quelques années et qui fait une sélection de romans en début d'année. Elle sélectionne 5 romans, ou 4 romans même, par tranche d'âge. Et ensuite, c'est soit des élèves d'école, de lycée, ou des gens regroupés dans des bibliothèques, des clubs de lecture, qui peuvent participer. Donc la participation est gratuite.
Oui.
Et il faut bien sûr lire les 4 livres et voter. Voilà, donc,
Alors vous, c'était dans la catégorie lycéen. Et je crois
et adulte,
que ces ouvrages
voilà.
doivent avoir un lien avec la jeunesse et l'intergénération.
Voilà, voilà.
Voilà, ce qui est le cas. Et puis j'ai regardé votre biographie quand même, après avoir lu votre ouvrage, et j'ai constaté que vous mettiez dans vos écrits beaucoup de vous-même, de votre expérience, de vos connaissances et de vos passions. Ainsi, votre regard sur la nature, c'est dû à quoi ?
Ah là, c'est quelque chose que je mets d'ailleurs, qui est le centre de tous mes livres à peu près. Hein. À chaque fois, c'est des univers différents que je décris. Ça a pu être donc la forêt, les marais. Là, c'est le fleuve, la Garonne, mais le fleuve dans toute sa diversité, entre le fleuve enserré dans la ville à Toulouse, puisque c'est là que l'histoire démarre, jusqu'à l'océan. Hein, voilà.
Oui. Alors, la nature, que vous connaissez bien, est-ce que ça a un rapport avec votre formation aussi?
Alors oui, au départ, j'ai eu une formation d'agronome spécialisée en écologie, à une époque où
on n'en parlait pas trop,
c'était difficile
vous
en tout cas.
Vous étiez précurseur.
Voilà, j'ai travaillé aussi dans un parc régional dans mes premières années d'activité. Mais j'ai fait ces études parce que j'ai été attiré par la nature et
c'est
non
ça.
Pas le contraire.
Ouais,
quoi, hein.
Ouais, ouais.
C'est vraiment très, très...
Alors, évidemment, on va en parler du travail du bois, de l'amour du bois. Alors, là aussi, il y a un rapport quand même avec votre vie.
Voilà, alors c'est vrai qu'un des personnages est un ancien menuisier. Et moi, j'ai monté une entreprise d'ébénisterie que j'ai fait tourner pendant plusieurs décennies. Avec pas mal de jeunes que j'ai formés pour la plupart.
Vous ne dites pas que c'est à Revel, c'est connu quand même.
C'est à côté de Revel.
Oui.
C'est à côté de Revel, mais je me suis occupé aussi d'un groupement d'ébénistes sur la fin de ma carrière de jeunes ébénistes à Revel pour dynamiser le groupement, pour essayer de trouver des salons, pour se faire connaître et les faire connaître un peu plus. Quoi.
D'accord. Voilà. Et puis, je dirais aussi un autre aspect, connaissance des jeunes. Alors, est-ce que vous avez eu vraiment, parce qu'il y a une telle finesse dans l'analyse, est-ce que vous avez eu affaire à des jeunes dont vous vous êtes occupé particulièrement, en dehors de vos enfants, bien sûr?
Alors, d'abord, ça a commencé il y a très longtemps. Je me suis occupé de gamins un peu plus jeunes que moi, quand j'étais en la sortie de l'adolescence. Ensuite, on s'est occupé de jeunes avec une association que vous connaissez sans doute, qui est ATD Carmonde, dont je me suis occupé de jeunes dans la région parisienne, parce qu'à l'époque, j'étais étudiant à Paris avec tout un groupe. Et puis plus tard, j'ai retrouvé cette association dans la Cité des Isards, où on faisait des ateliers. Donc moi, j'apportais mes machines, enfin quelques petites machines manuelles, et j'apprenais à des enfants à bricoler, et parfois même à des adultes à restaurer une chaise. Voilà. Mais bon, les jeunes, ça, c'est la partie, je dirais, extra-professionnelle. Mais dans le cadre de mon métier, par contre, j'ai formé beaucoup de jeunes que je prenais. Alors, des stagiaires, on a un lycée professionnel à Revel, donc nombreux sont passés par chez moi. Mais j'ai aussi pris des apprentis et des apprentis filles.
D'accord.
Voilà.
Et vous avez pu voir ce qu'étaient justement, quels étaient les bienfaits d'un travail même manuel, justement, et puis de voir ce que l'on fait, ce que...
Je pense que nous, si vous voulez, dans notre métier, on a deux catégories. On a des jeunes qui viennent, parce qu'ils ont choisi surtout ces derniers temps, des gens qui même ont un bagage. Certains ont le bac un an ou deux ans après le bac. Et donc la dernière des jeunes que j'ai pris chez moi et que j'ai gardé en salarié ensuite, c'était le cas. Mais on a aussi des jeunes qui sont en situation d'échec, qu'on met là, je dirais, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Et puis qu'ici, enfin à Revel, autour de Revel, il y a un lycée professionnel, c'est l'ébénisterie. Donc on les met là. Et on se rend compte qu'en fait, ces jeunes, parfois... En leur donnant le truc, en leur faisant construire quelque chose, ben ils se rendent compte qu'ils arrivent à faire quelque chose.
Oui. Et
en fait, c'est leur donner confiance en eux. On n'en fera pas forcément des bons ébénistes, ni même des ébénistes du tout, mais leur donner confiance en eux, c'est souvent fondamental pour qu'on les voit ressortir un peu plus épanouis. Et voilà. Et ça, c'est la meilleure récompense.
Oui, on va en reparler d'ailleurs de cet aspect-là. Alors, évidemment, c'est une histoire de notre région, de notre époque, on va le voir. Tout se passe à Toulouse, visiblement, vous connaissez bien. Vous aimez, non ?
Ah oui, Toulouse, j'ai découvert Toulouse quand je me suis installé dans la région, puisque je ne suis pas tout à fait d'ici. Mais depuis 40 ans, je sillonne Toulouse. Puis j'ai beaucoup fait de chantiers. Donc c'est pour ça aussi que j'ai découvert des tas de petits immeubles où on allait travailler.
Oui.
Donc c'était des choses extraordinaires qu'il y a dans Toulouse.
Oui, voilà. Alors oui, même un peu le quartier des Isards, vous en parlez, les quais de la Garonne et puis le centre-ville. Avec beaucoup de détails, mais pas trop de détails, ce qui est bien aussi. Alors, c'est l'histoire d'une rencontre improbable d'un vieil homme, Armand, et d'une jeune fille nommée Ancolie. Voilà, et tout le livre tourne autour de ces deux personnes. Et d'ailleurs, la construction de votre livre fait qu'il y a une alternance. Chaque chapitre alterne, vous faites parler l'un puis l'autre.
Alors ça, oui, j'ai tenté cette expérience d'écrire en mettant la place une fois du personnage masculin et une fois de la jeune femme, en essayant de raconter la même vision de deux manières différentes.
Oui, exactement. Alors oui, même situation, et il y a ce vieil homme. Et je ne sais pas quel âge il a, mais il est très âgé.
Ils le disent, il a plus de 70 ans, donc environ 70 ans.
Et cette jeune fille, avec un regard différent, mais en même temps, et justement, c'est très intéressant. Alors, et puis, ils ont des réflexions personnelles, évidemment. Alors, je me suis demandé si ce n'était pas difficile de se mettre dans la peau d'une jeune fille de 20 ans en 2020, 2021. Vous l'avez écrit en 2020, je suppose, terminé en 2020.
Oh, je l'ai terminé même plus tôt, parce qu'en fait, je suis très, très lent, moi. Je mets des années à écrire un bouquin. Puis je travaille beaucoup, je me documente beaucoup, j'essaie
on le voit.
J'ai fait le voyage je décris ensuite. Je suis retourné 10 fois dans tous les quartiers que je décris. Enfin, bon, voilà. Ouais. Alors, oui, se mettre dans la peau d'une jeune femme, ben je pense qu'il y a quand même une contribution importante des jeunes qui sont passés à mon atelier, dans mon atelier ces dernières années. Parce qu'on est une toute petite entreprise, donc un peu familiale, si je peux dire. Et donc, on passe du temps ensemble. Alors, évidemment, c'est un métier manuel où il y a du bruit, des machines-outils qui nous obligent à mettre des casques. Mais il y a quand même d'abord des voyages. Parce qu'ensemble, on a été, avec la jeune, la dernière qui s'appelait Julie, on est parti faire des chantiers sur Versailles. Donc ça vous fait quand même 8 heures de route.
On discute. Évidemment.
Et comme on y restait, c'est un chantier qui nous a pris sur 2 ans. À chaque fois, on restait une semaine, donc on mange ensemble, on discute. Et donc ça permet aussi de voir la manière de parler d'un jeune.
Ah oui, le langage.
Voilà, le langage, le rythme des paroles, les réflexions, la dureté parfois, mais aussi l'affection qu'il peut y avoir aussi. Toujours avec beaucoup de retenue, parce que nous, on était entreprise, donc... même s'il y avait de la sympathie, il y a toujours beaucoup de retenue entre nos
relations. Il ne faut pas tout mêler.
Relations. Voilà.
Oui.
Voilà.
Alors, évidemment, rien ne devrait les rapprocher, et ces deux personnages, ni l'âge, ni le milieu, ni les goûts, ni les activités, ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent. Et on assiste à une approche très lente, très subtile, comme une sorte d'apprivoisement, finalement.
Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment un apprivoisement. Je veux dire, mais quand vous avez un jeune, mais même chez nous, on a un jeune qui arrive dans l'atelier, il arrive souvent parce qu'il est obligé de trouver un stage. Donc voilà, déjà, ça démarre en général assez mal, assez mal. Et donc, il faut que petit à petit, il se rende compte que nous, on l'accueille avec plaisir, mais il faut aussi qu'il donne quelque chose. Et donc, c'est un peu cet apprentissage de chacun fait un effort et les choses se passent bien. Mais il y a besoin d'un apprentissage, de s'écouter, et c'est parfois un peu long, oui. Ça se fait jamais comme ça, au premier contact. Quoi.
Ouais. Oui, alors là, je dirais même que là, il y a un apprivoisement réciproque, en ce sens que même lui, on va en parler, mais lui aussi, ce sont des êtres pudiques tous les deux, finalement, extrêmement sensibles, on le voit dès le départ.
Oui, alors c'est peut-être, ça correspond peut-être à mon caractère, mais oui, je pense qu'à la fois, il y a une pudeur, c'est-à-dire pas l'envie de se livrer, livrer trop de choses. On ne sait pas à qui on a affaire, puis on n'a pas l'habitude. Les gens, nous, on a un métier solitaire, mine de rien, que ce soit l'écriture d'ailleurs, comme les bénisteries, on a des métiers extrêmement solitaires, où on est toute la journée devant notre travail, devant notre tâche.
Ouais.
Et donc, la présence de quelqu'un d'autre perturbe un peu cette solitude. Et il faut arriver à l'accepter. Et ce n'est pas facile. Mais par contre, quand ça marche, c'est souvent beaucoup plus profond.
Alors, Ancoli, vous pouvez me dire un mot d'elle ? Enfin, un mot. Oui, c'est un personnage important. Elle a 20 ans. Comment ?
Voilà, elle a 20 ans et comme beaucoup de jeunes dans ces quartiers, elle est un peu... elle est un petit peu, je dirais, à vif. Elle a fait des petites conneries comme beaucoup.
Elle est sous l'emprise quand même
Elle est sous l'emprise, oui et non, elle est sous l'emprise de
gens violents. Ouais. Ce que je vois.
D'un milieu social aussi compliqué.
Violent.
Oui, pas que violent, parce que je pense pas qu'elle le respire comme ça, mais vous savez, quand moi je l'ai vu dans des quartiers, vous rentrez chez les jeunes, vous dites ah ouais, mais pourquoi ils ne travaillent pas, etc. Bon, ben, y a la télé qui est à fond, ça crie dans toute la maison. C'est compliqué de faire ses devoirs, personne ne vous pousse.
Oui.
Personne n'est là pour dire « Bon, alors, t'as pas fait ton truc » ou « On va t'aider ». Je parle même pas d'aider, je parle même simplement d'avoir un moment de tranquillité pour pouvoir travailler. C'est compliqué. Donc, elle vit dans ce genre de milieu où, bien sûr, il y a un peu de délinquance un peu plus dure qui essaie de s'emparer. C'est une jolie fille, on pense. Et voilà.
Oui, mais quand je parle de violence, ça m'a frappée parce que moi, j'écoute, là, je vois autour de moi, justement, l'alcool, l'effet de l'alcool et de la violence, quand même. Alors, est-ce que je me trompe ? Mais il me semble que la violence est beaucoup plus forte. Elle est victime de coups de la part de sa mère et de son père adoptif, de coups de la part de son copain. On va pas parler que de ça parce que Dieu sait qu'on en parle. Mais enfin, c'est vrai que s'il y a cette violence et puis certainement portée également suscitée par l'alcool, par la drogue pour beaucoup. Hein.
Oui, alors là, bon, je parle pas trop d'alcool à part le beau-père, qui est
la mère, et la mère, apparemment.
Oui, mais c'est le beau-père qui picole un peu, la mère laisse faire plus qu'autre chose. Et le jeune, lui, on peut pas dire qu'il boive beaucoup, mais par contre, oui, il y a cette espèce de violence qui est liée à... Nous, on l'a vécu aux Isards. Enfin, donc, la drogue fonctionne. Et encore, moi, j'ai travaillé aux Isards il y a longtemps, où ça s'est durci, paraît-il, depuis. Bon, c'est vrai que ça existe. Mais elle est née là-dedans. Et je pense que ce n'est pas ce qui la traumatise le plus. Ce qui la traumatise, c'est que, du coup, elle est empêchée d'avoir des rêves, quelque part. C'est-à-dire qu'elle a cette espèce de cette chape qui est sur elle, qui fait qu'elle a l'impression de ne pas exister, et c'est ça le pire, quoi, je crois.
Mais alors, Je reviens là-dessus parce que dans le fond, je me dis, elle est face à des gens très rudes et on sent qu'elle a besoin d'être aimée. Elle est manipulable. Vous avez dit, bon, elle a fait quelques conneries, c'est vrai, mais quand même, c'était sous l'emprise de ce garçon, Matteo. Et je crois que c'est pour être avec quelqu'un, pour être importante.
C'est le cas de tout le monde, y compris des garçons là-dedans. C'est-à-dire que s'il y a un petit caïd, vous êtes plutôt envie de vous montrer vis-à-vis de lui plutôt que de résister. Et de, vous savez, c'est quand même quelque chose de général, quoi, hein. On se plie plus volontiers devant le plus fort et on essaie d'être le pote du plus fort que le contraire, quoi, hein. C'est pas spécifique au fait que ce soit une fille, même si ça augmente la dureté et ça augmente en plus par cette espèce de machisme qui existe quand même dans pas mal d'endroits. Chez nous, à l'atelier, on a fait en sorte qu'il n'y en ait jamais. Mais j'ai eu des jeunes qui ont travaillé chez moi qui sont revenus me voir plus tard en me disant « Mais si vous saviez, il y a des ateliers, c'est terrible, on ne pourra pas y rester. »
Ah
ça existe, il oui. ne faut pas le...
Oui, en même temps, alors... Bon, visiblement, elle est intelligente, elle est lucide aussi, voire elle a un sentiment de culpabilité presque. Elle dit à un moment donné, ma solitude n'est pas un hasard, c'est ma destinée. Elle est résignée.
Il y a beaucoup de jeunes qui ont cette...
Oui, c'est de ma faute.
Il y a beaucoup de jeunes, hein. Moi j'ai vu, y compris des garçons, hein. J'ai vu des garçons en disant, de toute façon, moi je suis comme ça, je suis moche, je suis... Voilà, vous savez, il y a une phase de l'existence où on se rejette soi-même.
Oui.
Elle sort à peine de l'adolescence et il y a cette... on se trouve même si elle est jolie fille vue de l'extérieur, elle ne se trouve pas forcément jolie. Elle voit ce qui ne va pas et elle ne voit pas ce qu'elle peut faire.
Oui.
Et donc, mais honnêtement... Ces dernières années, moi, j'ai vu que ça passer à l'atelier. Hein.
Alors, oui, ben justement, vous dites ces dernières années, je n'ai vu que ça. Mais
qu'avant, j'en voyais peu.
Ah oui.
Parce que moi, j'avais pas de filles avant l'atelier, ce qu'il faut dire. Hein.
Ah oui,
c'est
d'accord.
Assez récent.
Ah
hein,
oui,
c'est...
d'accord.
Enfin, ça fait 15 ans que je vois des filles, mais avant, il n'y avait quasiment pas de filles.
Parce que moi, j'ai le sentiment que cette souffrance s'est accentuée.
Je ne sais pas. Peut-être on en parle un peu plus. Ça,
oui,
c'est
peut-être,
clair.
Oui.
Mais moi, des jeunes, quand je vous parlais des jeunes dont on s'occupait quand j'étais étudiant dans les quartiers RATD, là, c'était avec Joseph Rezinski à l'époque qu'on avait rencontré, je vous garantis qu'il y avait des souffrances, hein, souffrances, et des garçons comme des filles. Hein. Mmh. Nous, on s'occupait d'ados un peu.
Ouais.
C'était compliqué, hein, vraiment compliqué. Hein.
Alors...
Et des coups, et des gens et des parents qui buvaient, et qui...
Oui,
voilà, c'est des quartiers difficiles. Hein.
Oui. Alors, elle aime dessiner, elle aurait aimé entrer aux Beaux-Arts, mais bon, l'histoire, il y a le bac et ses notes ne sont pas terribles. Et elle n'a... Alors, tout à l'heure, vous les avez dit ce mot, elle n'a plus d'envie, en fait. Elle n'a plus d'envie, elle décroche, quoi.
Alors ça, c'est récurrent aussi à cet âge-là. Enfin, même des enfants qui sont dans des familles équilibrées où on semble que tout va bien, il y a un âge où on se remet beaucoup en cause, où on pense que ça ne va pas. Et
on se sent nul.
On se sent pas bien, etc. Et c'est souvent la rencontre qui peut vous faire déclencher cette chose. Moi, il y a des gens qui m'ont dit en lisant le livre, « Ouais, mais quand même, c'est exceptionnel de rencontrer. » Eh bien, moi, j'ai envie de leur dire « Non ». L'exception dépend de vous.
Mais,
c'est-à-dire
voilà.
que c'est à chacun
Alors,
d'essayer
vous dire,
de...
Moi, j'étais dans l'enseignement, je dois vous dire quand même, effectivement, il y a des choses que j'ai rencontrées comme vous, je dois dire quand même que c'est un livre à mettre entre les mains de tous les enseignants. Ils ne pourront pas forcément faire comme ce vieux monsieur, hein, mais quand même... Pour alerter,
Mais je vais vous dire un exemple qui nous avait touché sur la fin de ma carrière. Là, donc j'étais avec cette jeune dont je vous parlais tout à l'heure, qui a passé 3 ans chez moi, et on nous a confié un cas social, si je puis dire, par le lycée, une jeune qui arrivait les bras ballants, qui voulait visiblement pas faire grand chose, et tous les deux, donc avec Julie, on s'est dit on va essayer quand même de lui faire quelque chose. Ce qui nous a choqués, c'est que quelques jours après, on a un prof, le prof responsable, qui nous a appelés en nous disant « Ah, vous l'avez, alors, comment ça se passe? Vous ne l'avez pas encore viré ?» Et je lui ai dit, mais attendez, on n'est pas là pour ça. Il nous a dit, mais écoutez, vous nous rendrez service si vous la virez, parce que nous, on ne peut pas le faire. Et là, on a été choqués, quoi. Mmh. On s'est dit, mais non, on est là pour essayer d'en tirer quelque chose. Et quand cette jeune est partie, il est venu nous voir en nous disant, alors, et puis on lui a dit, mais ça s'est bien passé. Et ce qui a été curieux, c'est que du coup, on a reparlé avec cette jeune après. Elle nous a dit, vous savez, quand je suis venu chez vous, je ne voulais pas venir, etc. Mais en fait, vous m'avez appris plein de choses. Vous avez été gentils, sans doute, tous les deux. Enfin, Julie, peut-être plus que moi, parce que s'en occupait un peu. On lui a fait faire des choses et elle a réussi à les faire. Et du coup, elle était dévouée après. Vous voyez ce que je veux dire ? Le revirement.
Oui, oui, oui.
Et je pense que les jeunes, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on leur fasse confiance.
Oui. Absolument.
Et puis tant pis, si ça ne marche pas, bon, il y aura des échecs. Hein. Même nous, il y a des jours où aussi on n'est pas de bonne humeur parce qu'on a un client compliqué, un chantier compliqué et qu'on n'a pas envie d'être embêté. Hein.
Oui, oui.
Mais voilà, globalement, la chance, elle vient aussi de là. Et en même temps, nous, on reçoit. Enfin, je veux dire, quand ça marche,
c'est enrichissant pour nous. Donc, vous avez su éveiller, on sait, et là, ça va être le cas d'ailleurs, éveiller l'intérêt, l'envie, le désir. Alors, j'ai une petite phrase, là, je crois, page 11. C'est un petit peu, presque au départ, qui concerne... « Je sens en moi un mélange de tristesse et d'amertume, une révolte contre je ne sais quelle injustice, une envie de violence mêlée à une envie de me perdre. » Oui, et vous avez bien décrit hein, cette personne, ces jeunes qui sont très ambivalents, qui sont en situation, bon, qui appellent à l'aide en fait. Hein.
Oui, ils appellent à l'aide, mais en fait, je crois que malheureusement, c'est aussi des périodes que tout être humain vit. Mmh. Enfin, à un moment donné, quoi. Alors, les adolescents, plus que d'autres. Enfin, c'est une période de la vie où on le vit plus qu'à un autre moment, mais ça peut toucher n'importe qui, n'importe quand. Oui. Et dans des périodes comme on vient de vivre...
C'est très dur.
C'est très dur pour beaucoup de gens
qui
sont complètement isolés, qui sont chez eux, qui ne voient personne. Enfin, voilà.
Donc, oui, tout à fait. Et Bernard Rousseau, je vais vous proposer une courte pause musicale, courte parce que vous avez beaucoup de choses à dire et moi beaucoup de questions à poser. Donc une petite pause musicale et vous avez proposé donc du groupe Feu Chatterton, L'Oiseau, et nous allons découvrir ça avec vous.
Un pigeon défunt pour un oiseau, mais quel drôle de fin. Sur la plage échoue sans cesse, jeté par les vagues, échoue sans cesse là-bas. À présent l'orage dort sous la grève, tout corps d'eau, le sable s'élève. Puis c'est l'oiseau foudroyé dans le creux de mes pas reposé. Viens là, le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des aiguilles et une poupée vautou. Le soleil perce l'oiseau rayé de ses raides et doux rayons comme des aiguilles. Une poupée vautour. Arrive-t-il d'un pays lointain? Se vola-t-il au regard éteint? Moi je crois revenu, apeuré et nu, du fond de ma mémoire rétive. Alors du temps qui passe, je remonte le cours jusqu'à l'impasse où gisent mes amours, espérant trouver des plumes, un souvenir de plus du pauvre oiseau reconnu. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles une poupée vaudou. Le soleil perce l'oiseau gris de ses rêves et doux rayons comme des aiguilles. mon poupée vaudou. Viens que je te mette à abri des l'ombre lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Viens que je te mette à l'abri des l'ombre lumineux, de l'astre enfantin qui appuie sur les plaies de tes yeux. Pigeon de mon cœur, pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau moqueur. Pigeon de mon cœur, épine, tu es le remords, infatigable oiseau.
Parole d'auteur Monique Fauché.
Voilà, nous reprenons notre entretien avec Bernard Housseau, qui a écrit un ouvrage, un roman intitulé « La jeune fille et le fleuve », édité chez Passiflore, roman qui a reçu le prix Chronos 2020 et qui, dont les deux personnages sont deux personnages très attachants, très improbables, je disais, un monsieur âgé et une jeune fille. Voilà. Et donc nous parlions de cette jeune fille en colis, et on voit comme beaucoup de jeunes qui s'enfoncent et qu'on ne sait pas comment récupérer, on ne sait pas trop quelle solution, et il y en a, il faut inventer, voilà. Alors lui, on a du mal à deviner qui il est. Il s'appelle Armand, il est habillé comme un clochard ou presque, c'est un personnage étrange lui aussi.
Oui, alors là, c'est les hasards de la vie. Je pense qu'on apprend plus tard ce qui lui est arrivé. Mais ce n'est pas du tout un clochard, en fait.
Non.
C'est quelqu'un qui a eu une entreprise qui, bon, pour des raisons, je dirais, personnelles, il a un peu, il est en errance. Et il est en errance devant ce fleuve. On saura pourquoi ensuite. Mais il se raccroche autour du fleuve. Il cherche on ne sait quoi, peut-être un souvenir.
Il dit parfois le fleuve m'apaise, parfois le fleuve voilà. M'apaise.
Ouais. Voilà, je pense que c'est ça, mais c'est aussi l'observation.
Ce un contemplatif.
C'est peut-être un contemplatif, il l'est devenu peut-être contemplatif, et il va apprendre aussi à la jeune aussi, à Ancoli, à regarder.
On va voir ça,
à regarder les oiseaux, à regarder le courant.
Voilà. On l'apprend plutôt vers la fin. Il a vécu 10 ans de non-existence, donc il s'est passé quelque chose. On n'en parlera pas, on ne va pas tout dévoiler. Hein. Voilà. Et il est solitaire, mais il observe justement, comme vous dites, les lieux, leur beauté aussi, les hommes peut-être. Il est assez observateur parce que Ancoli, il a deviné bien des choses et peut-être même l'a-t-il sauvé. À un moment donné, je voudrais... Attendez, voilà, je trouve. Oui, il parle aussi de sa vieillesse. Alors, vieillir, je ne sais pas.
Ils ont beaucoup d'échanges entre eux sur la vieillesse,
oui,
sur le temps
justement.
Qui passe.
Oui, oui, parce qu'elle lui pose des questions franco, mais c'est bien, parce que ça l'oblige.
Comme beaucoup de jeunes, elle y va. Et alors, vous êtes vieux, vous, quoi. Enfin, c'est un peu
oui,
ça.
Oui, voilà. Et donc, le premier échange, lui, c'est très léger, il avance avec précaution. C'est un poète, une forme de poète, et avec beaucoup d'humour. Il voit cette jeune fille penchée sur le fleuve, près du fleuve. Il fait attention et simplement il lui dit « Vous allez réveiller le héron ». Et il ne veut pas l'effaroucher, mais il veut justement détourner son esprit.
Voilà, il veut lui montrer autre chose. En fait, quelqu'un qui est... Il le sent. Il sent qu'elle est dans une situation... Il l'a entendu pleurer. Voilà, ça l'a retourné. Au début, ça l'a dérangé. Simplement dérangé dans son confort. Hein. Ouais. Et puis ensuite, il dit, c'est pas normal que moi, j'ai envie de pleurer ou que j'ai envie de me foutre à l'eau.
Mais
pas quelqu'un qui a 20 ans, quoi. Ouais. Et donc, il va essayer de détourner son attention pour lui dire... Ben, ah, vous avez vu le héron là-bas, attention, vous allez le réveiller. Voilà,
ouais.
C'est d'une manière discrète.
Ouais. Et elle, dans le fond, elle répond, elle n'attendait que ça, finalement, peut-être. Elle attendait que quelqu'un s'intéresse à elle. Et alors, lui, on voit, il a envie de parler à quelqu'un, finalement, d'exister pour quelqu'un. Il est très seul, très très seul.
En fait, il est seul, mais je pense qu'il le vit plutôt bien, si je peux dire. Parce que la solitude est une chose auquel on s'habitue. Avec le temps, et il voit les gens passer, ça ne l'intéresse pas, il ne s'intéresse plus du tout, il a l'impression de ne plus s'intéresser aux humains, et tout d'un coup, il s'intéresse à quelqu'un.
Oui,
et c'est
voilà.
Ça qui va le surprendre, c'est que
oui, c'est ça,
ça le surprend lui-même.
Oui, oui. Et ça le réveille, et puis c'est le caractère de cette jeune fille aussi, j'ai l'impression que ça le réveille d'une longue atonie, en fait.
C'est ça, oui. Ça le réveille, ça le perturbe au début, parce qu'il se dit, mais pourquoi j'y pense à... Enfin, c'est un peu... ça correspond à rien, oui. J'ai pas besoin de ça, et puis malgré tout, on sent qu'il va en avoir besoin, et il va l'attendre, en
fait. Absolument. Alors, ils vont finir par se rencontrer, donc, et il va l'aider à préparer son bac d'une manière intéressante. Sa méthode, écoutez, c'est plutôt celle de Socrate, hein. Déambulation dans la ville, dialogue, conversation, questions-réponses, et ça marche.
En fait, c'est un peu ça, c'est-à-dire que montrer aux jeunes qu'il a des capacités. En fait, c'est pas...
Ouais.
Il lui a dit, moi, je veux pas t'apprendre à faire des maths. D'abord, il est hors du coup. Mais par contre, si je te donne un peu de temps, que t'es... Il a bien compris de quel milieu elle est, et il sait très bien ce qui se passe. Moi, je l'ai croisé aussi. On sait que les jeunes... On leur donne des bouquins, on leur donne du temps, on leur donne un peu un endroit calme. Ça peut suffire à déclencher, en fait, pas une résurrection, mais c'est un peu ça. De retourner dans un univers qu'ils ont perdu. Parce que l'école peut quand même vous évacuer très facilement. Enfin, et une fois que vous êtes en perdition, vous revenez difficilement à la surface.
Oui.
Quoi, hein.
Oui.
Donc, lui, c'est juste des petits gestes, lui montrer que... Mais tu vois bien que tu es curieuse, tu as lu ça.
Oui, parce que justement, il arrive à éveiller sa curiosité, hein, c'est ça. À un moment donné, il dit d'ailleurs, la curiosité est la mère de l'apprentissage. C'est vous qui l'avez écrit, hein.
Oui, c'est moi qui ai écrit ça.
Vous l'avez peut-être oublié.
Non, mais parce que dans nos métiers, c'est
bien
vraiment
sûr,
ça.
Bien sûr.
Je veux dire, nous, on a des métiers où l'apprentissage initial est réduit à pas grand-chose. Et ensuite, c'est sans arrêt qu'il faut apprendre. Donc, pour apprendre, il faut regarder.
Mais c'est valable pour tout, Bernard Rousseau.
Voilà. Mais beaucoup de gens ont oublié.
Oui, c'est vrai.
Beaucoup de gens ont oublié qu'il faut sans arrêt regarder comment les autres font.
Oui,
et comme ça, on progresse.
Oui, absolument. Et alors, d'ailleurs, lui, il alterne le travail avec le livre dans un café, tous les deux. Et des promenades, je dirais, pédagogiques et artistiques, puisqu'elle a ce sens-là, hein, elle aime dessiner. Voilà. Et oui, j'ai pensé que dans l'enseignement technique, les professeurs avaient une bonne approche en général, parce que justement, ils utilisaient un vocabulaire plus simple, pour les amener à aller plus loin.
Je pense que l'enseignement technique est parfois... D'abord, il a été beaucoup dévalorisé.
Absolument.
Et en fait, nous, en tout cas, nous, dans nos métiers, on a besoin de gens intelligents. Il ne faut pas penser que le travail manuel, c'est quelque chose pour les gens qui
absolument.
Comprennent pas.
Absolument. Mais la méthode est intéressante,
alors,
justement.
Voilà. Alors nous, on essaye de faire comprendre aux gens ou aux jeunes... l'utilité du geste, en fait. Et c'est quelque chose... Moi, je me souviens, j'ai fait des études, donc j'ai fait des maths. Et quand on faisait de la trigonométrie, on ne savait jamais à quoi ça servait, en fait. C'était d'une abstraction redoutable. Mmh. Donc moi, j'avais l'esprit qui me permettait de comprendre. Ça m'allait bien, je n'avais pas besoin de bosser. Je m'en sortais. Ça m'a beaucoup aidé. Mais en fait, je me rends compte dans mon métier, là, dans ce que j'ai fait pendant des années, qu'en fait, le tracé, la géométrie, c'est des choses qu'on a apprises, mais qui sont hyper pratiques. Et qui servent tous les jours. Et donc, c'est arriver à expliquer d'une manière très simple l'utilisation de choses qu'on a transformées en abstractions.
Absolument. On ne sait pas à quoi ça sert.
Des abstractions.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Et donc, je pense qu'effectivement, les métiers peuvent aider à la compréhension.
Oui. Alors, elle, évidemment, pour une fois, on s'intéresse vraiment à elle. Et Elle a confiance, on sent qu'elle a une confiance et elle a de l'intérêt pour ce qu'il dit. Et il y a une motivation qui s'installe et elle lui dit tout. Elle lui dit tout, elle lui dit ce qu'elle a fait comme bêtise. Elle parle de la mort de sa grand-mère. Donc il y a un échange. Et lui, il lui apprend à regarder. Et effectivement, ça aussi, c'est une bonne méthode, à regarder même le vol des oiseaux.
Oui, alors moi, je regarde beaucoup le vol des oiseaux.
Oui, parce que vous avez parlé de votre formation, mais vous n'êtes pas dans oiseleur.
Non, mais bon, je suis amateur. Vous voyez, on organise là, je vais animer une sortie de botanique. Donc je continue à faire des choses comme ça. On suit un peu, on fait des comptages d'oiseaux, on fait des tas de choses. Et c'est vrai que y a des... Alors, tout le monde ne s'y intéresse pas, hein, mais bon, à l'occasion, puis un oiseau, c'est tellement beau que
bien sûr.
De loin, les gens ne se rendent pas compte combien il y en a. C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas observé, on pense que c'est tout plus ou moins pareil.
Oui,
et
puis on ne voit pas la variété non plus.
Voilà, on ne voit pas le nombre. Mmh. Quand je dis le nombre, c'est le nombre d'espèces.
Oui, c'est ça.
Mais c'est pareil pour les plantes.
Oui.
Les gens passent, c'est de l'herbe, quoi. Enfin, il y a un champ. Ah, mais de près, on se rend compte qu'il y a du lin, des tas d'espèces. Qui sont, en fait, dès qu'on devient curieux, on se rend compte de la diversité et on va apprendre à aimer parce qu'on va chercher à en trouver d'autres.
Il y a cet
enclenchement d'un processus, en fait.
Hein. Oui. Alors, évidemment, il y a une amélioration des résultats scolaires. Il y a des hauts et des bas, hein, mais
il y a
une amélioration.
Bas, quelques hauts, quelques
oui,
bas.
Oui, voilà. Et puis, il y a la découverte dans l'ancien atelier d'Armand, de ce vieux monsieur, donc un bateau à l'abandon. Alors là, je dirais que c'est finalement le point d'orgue, parce que ce bateau va tout changer aussi, va être le symbole de l'évasion, alors bon, en collier fasciné. Elle veut beaucoup de choses, finalement. Elle va le motiver, même.
Alors, elle va le motiver parce que le bateau, il a arrêté de le construire il y a plus de 10 ans.
Oui, pour des raisons personnelles.
Pour des raisons personnelles, il a tout abandonné, il est sous une bâche. C'est un tout petit bateau, c'est une grande barque, quoi. Et elle, c'est elle qui va le motiver pour redémarrer la construction de ce bateau. Et elle va montrer aussi tout son talent, parce qu'elle dessine bien, elle va le décorer, voilà. Et lui, au lieu de se moquer de ses dessins un peu farfelus qui apparaissent sur la coque, eh ben, va dire, mais non, il faut continuer, quoi. Oui. C'est superbe.
Et alors lui, il est quand même bousculé, parce qu'il dit, son envie était perceptible, elle déployait une véritable énergie pour apprendre, accompagnée d'une grande volonté, d'une patiente application. Elle comprenait, répétait les gestes et bien entendu, comme pour tous ceux qui savent persévérer, elle réussissait. Au fil des séances, elle gagnait en assurance et précision. Et on le sent heureux de voir ce résultat.
Alors là, c'est carrément du vécu, je pourrais dire, parce que j'ai eu des cas comme ça, quoi. Là, vraiment de jeunes qui venaient avec l'envie, mais qui ne savaient rien faire, mais rien. Et qui très rapidement... ont montré qu'en fait ils avaient du talent et que l'envie en fait permet d'aller au-delà et de trouver des réponses, des solutions. Et donc c'est le geste, c'est naturellement précisé, etc. Et oui, pour moi ça a été un peu facile d'écrire ces parties-là,
parce que
c'est des parties
Mais écoutez, bravo, parce que justement, c'est très intéressant. Parce que donc, ils vont décider de le mettre à l'eau. En fait, il y a un rêve de voyage, c'est l'expression d'Ancoli qu'elle utilise, un rêve de voyage qui va pouvoir se concrétiser. Et alors, cette descente de fleuve, vous savez à quoi ça m'a fait penser ? Un film que je... Moi, c'est mon film préféré, c'est La nuit du chasseur.
La nuit du chasseur.
Oui, c'est ça. Hate and Love,
ouais, c'est ça. Sur
c'est
les,
un
sur
film
les
que
ah,
je
magnifique.
Trouve fabuleux, fabuleux. Ah, ouais,
ouais.
Et alors, c'est pour moi, ça a été ça parce que il y a cette descente, c'est symbolique. Pour moi, j'ai vu beaucoup de symboles là-dedans. Je pense que vous aussi.
En fait, C'est pour moi, toutes les histoires, il y a derrière un symbole, c'est-à-dire une volonté de transmettre des idées, de transmettre des choses. Et par exemple là, sur la transmission ou la manière d'aider un jeune, j'ai regroupé tout ce qui me semblait pouvoir être utile, c'est-à-dire éveiller la curiosité. Ça, c'est le travail manuel, mais c'est aussi l'activité physique.
Ouais.
Alors, certains jeunes vont accrocher sur un, sur l'autre. Là, la chance fait ou le roman fait que les trois éléments sont mis en œuvre. Et donc, bon, c'est vrai que c'est presque inattendu, hein, en tout cas, presque impossible. Mais chacun des éléments, même pris séparément, peut aider un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, à s'épanouir, ou en tout cas à trouver une raison de...
Et alors, en même temps, alors justement, moi, les symboles que je voyais aussi, c'est la fuite du mal, en l'occurrence d'un être malfaisant, et de tout ce qu'elle laisse de douloureux derrière elle. Et en fait, elle est de mal et la souffrance, et puis elle va vers son rêve, tout ce qui peut la sauver, dans le fond. Elle va c'est là où je vois aussi le symbole, enfin j'en vois beaucoup d'ailleurs, hein. Pour tous les deux, c'est dans le fond se libérer de leur chaîne.
Alors pour lui, je ne sais pas s'il se libère de quelque chose, si ce n'est d'une routine désespérante.
Moi, je vais vous dire que moi, lectrice...
d'une routine désespérante, oui. Et puis, c'est surtout qu'il trouve de la compagnie.
Ah, et mais ça, non, c'est mais fabuleux. Pas seulement. Bernard, je vais vous dire, pas seulement. Parce que c'est une jeune fille, allez, on va le dire, qui a l'âge qu'aurait sa fille.
Sa petite fille.
Oui, oui. Bon, donc...
Oui, parce que sa fille, moi, je suis déjà que oui. Quand on a 50 ans, une jeune qui a 20 ans, voilà, c'est
oui.
De votre fille.
Oui, oui. Mais c'est pour lui, elle lui a donné ce qu'il avait perdu aussi, l'espérance.
Alors... Oui, mais en fait, ça lui peut-être ça lui rappelle, ça l'apaise aussi de sa de ce qu'il a vécu,
de cette douleur qu'il a eue,
ça va l'apaiser. Et puis c'est fabuleux, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est fabuleux de se retrouver en compagnie comme ça d'une jeune qui vous apporte de l'énergie, de la gaieté, quelque chose que vous avez perdu. Et je veux dire, même moi qui n'ai pas vécu le drame que lui a vécu,
ça fait du bien.
Quand
ça
j'avais
fait du bien.
Des jeunes à l'atelier, moi je me suis toujours régalé de travailler avec des jeunes à l'atelier. Ça fait un bien fou, quoi.
Alors, il y a aussi, à moi, dans ce voyage, je vous dis, j'étais... En plus, franchement, ce film, j'ai adoré. Et ce n'est pas la transcription, on sent bien. Mais en fait, c'est dans la même idée, à savoir que cette osmose avec le monde végétal et animal, c'est apaisant, on est loin du déchaînement humain. Il y a tout ça. Écoutez...
Non, ça, c'est vrai, ça...
Ça, et puis, vous savez, à un moment donné, le livre vous échappe, excusez-moi de vous le dire.
Oui, non, mais c'est chacun interprète.
le lecteur s'en empare. Oui, et puis, alors, justement, cette attention portée aux oiseaux, donc vous nous en avez parlé, là, à l'instant, là aussi, il y a un côté symbolique. En dehors, il y a l'animal, bien sûr, qui peut intéresser, on les dénombre, on donne des noms, mais en même temps, cette idée de liberté, de légèreté, de grâce, c'est tout un poème.
Alors, son voyage, elle va tout découvrir aussi. Elle va découvrir la beauté, la légèreté, mais elle va aussi découvrir la bagarre, je dirais.
Attendez, on va y arriver, je ne le nie pas.
Oui, non, mais parce que même les oiseaux qu'elle voit à la fin, mais c'est aussi à chaque fois un combat. Descendre un fleuve, ça peut être rude.
Oui, oui, mais elle est apaisée à un moment donné. Alors évidemment, il va y avoir deux combats. Hein. Moi, j'en vois deux.
Oui, au moins deux.
Bon, mais il y a une forme d'apaisement que l'on sent chez elle. Justement, elle est avec ce vieil homme pour qui il y a un échange. Ils ont visiblement du respect, de l'affection l'un pour l'autre. Et elle trouve une paix qu'elle n'avait ni dans sa famille, ni dans son milieu.
Voilà. Hein? Alors ça, c'est quelque chose qui leur apporte à tous les deux. C'est que tous les deux sont privés quelque part d'un lien social fort.
Oui.
Et tout d'un coup, ils trouvent quelque chose. Alors sans qu'il se passe rien, c'est-à-dire sans qu'il y ait de contact, sans qu'il y ait... C'est toujours des attentions.
Oui.
Des regards,
tout à fait.
J'essaie de le passer comme ça.
Et une entraide.
Et le petit geste qui qui fait que ah ben, on sent que l'autre a fait attention à vous. Voilà.
Et puis, c'est une équipe qui se soude, parce que comme vous le dites, il va y avoir quand même deux cas. Alors moi, je vois celui de l'orage, hein, puis celui de l'enlisement, où à deux reprises, ils ont échappé belle, en fait. Ils ont failli...
Complètement.
Oui, oui. Bon, la Garonne peut être violente. Il y a eu un orage, etc. Enfin, ça, nos lecteurs, nos auditeurs le liront. Et tout le long de ce périple, alors, à côté de ça... Il raconte également, c'est à la fois apaisant, c'est physiquement, ça fait du bien, il y a le calme aussi, et puis il apprend, il raconte le long du fleuve, les villes que l'on voit ou que l'on aperçoit, les monuments, tout le long de la Garonne, il y a l'histoire, mais il y a les activités, il y a la faune, donc voilà, ça aussi, c'est un superbe éducateur.
C'est quelqu'un d'observateur.
Oui, mais qui partage.
Voilà, oui. Et puis, bon, qui sait forcément, partager. Quand vous avez un long vécu, vous avez des connaissances et que l'objectif, c'est de les transmettre, c'est de raconter, sachant que la personne à qui vous racontez, ben, un jour ou l'autre, c'est elle qui racontera. C'est comme ça, oui. Enfin, la transmission, c'est ça. Et quand moi, j'ai appris des choses à des jeunes, je sais qu'il y a des gestes que j'ai appris par des anciens.
Oui.
Et je leur transmets et je suis ravi de savoir que ben, la dernière jeune qui est partie de chez moi, elle s'est mise à son compte.
Oui.
Et je me suis dit, ah... Parce qu'il y en a tellement qui échouent. Alors peut-être les conditions de vie sont tellement difficiles, peut-être
qu'elle sera
obligée d'arrêter un jour ou l'autre. Mais pour le moment, je suis ravi qu'elle exerce quelque part. Quoi.
Vous m'avez enlevé ma conclusion.
Ah.
Alors, non mais en fait, oui, voilà. Elle prend confiance en elle. Et elle admire Armand, elle a confiance en lui. Et elle sait qu'il a confiance en elle aussi. Il y a cet échange-là. Et il la voit ramer, il la voit tenir la corde qui retient le bateau. Il la laisse manœuvrer à bien des reprises. Il y a cette confiance mutuelle et ce respect. Voilà. Et pour Armand, je crois que cette idée de transmission de sa passion, finalement, le travail du bois et puis ce qu'ils font ensemble, c'est énorme. Et vous venez de le dire. Moi, je crois qu'effectivement, le bonheur, il le tire de là.
Moi, je pense qu'on vient de se rendre compte dans cette dure période, le bonheur, c'est d'être aussi un peu avec les autres et de savoir partager avec les autres. Parce que je dirais tout seul dans son coin, même riche ou pas, si vous n'avez personne avec qui partager... Si vous faites un voyage, avec quelqu'un, pas en groupe, je ne parle pas d'un grand groupe, mais avec une personne avec qui vous pouvez échanger le soir et regarder ensemble quelque chose.
Oui.
C'est bien plus enrichissant que d'être seul. Hein, donc,
oui.
Voilà. Et quand vous voyagez seul, ce qui m'est arrivé souvent, eh bien, vous rencontrez des gens d'une manière beaucoup plus intéressante.
Oui, ah, j'allais vous le dire, oui. Je reconnais qu'ils aiment voyager seul parce qu'on va les aborder plus facilement.
Ah, complètement.
Ouais.
Ah,
ouais.
Mais donc, vous abordez des gens.
Oui, de toute façon, oui, c'est vrai. Voilà, alors, pour elle, moi je dirais que elle est pour lui le seul objet d'espérance, et puis ce regain de rêve, d'énergie, à un moment donné, il a peur qu'elle l'oublie, et en même temps, alors, il y a quelque chose de très émouvant, je trouve, c'est même pas à la fin, on va pas parler à nos auditeurs de la fin, il faut qu'ils lisent votre livre. À un moment donné, alors je suis en train de lire, il dit maintenant, j'ai à nouveau quelque chose à perdre. Et Ancoli, elle, va dire, à un autre moment, j'espère que vous serez là encore longtemps. Et quand il dit, j'ai à nouveau quelque chose à perdre, c'est-à-dire il n'était attaché à rien, donc vivre, mourir, ça n'avait pas d'importance, mais il sait qu'il est attaché à quelqu'un.
Ah ben c'est la difficulté de rencontrer quelqu'un aussi.
Oui,
c'est
ouais.
Qu'on sait qu'à un moment donné, on va le perdre. Et forcément. Et donc, c'est la beauté des choses, mais c'est aussi leur rudesse.
Donner
quoi.
Du prix aux choses,
et
justement.
Donner du prix aux choses, absolument.
Voilà. Eh ben, écoutez, on aurait pu en parler longtemps. En tout cas, je dis à nos auditeurs, vraiment beaucoup aimé cet ouvrage. La jeune fille et le fleuve. Alors, un roman de Bernard Rousseau aux éditions Passifort. Il a reçu le prix Chronos, prix très mérité. Un grand merci.
Merci à vous.